Bonjour à tous, je suis content de vous voir. Comme disait Manu, vous êtes beaux. Alors aujourd'hui, j'ai la lourde tâche d'essayer de répondre à la question « Qui est Dieu ?» Waouh, quelle entreprise, n'est-ce pas? Alors, ça fait, comme Manu l'a dit, ça fait partie d'une série de prédications où on cherche vraiment à savoir cette question de base « Qui est Dieu ?» Alors aujourd'hui, une introduction, la semaine prochaine, qui est Jésus-Christ, et en mai on verra encore le Saint-Esprit et son œuvre, et aussi un Dieu trois en un. Alors, pourquoi on se pose ces questions qui ont l'air peut-être toutes simples? On pourrait dire c'est un peu basique, non? Mais en même temps, du coup c'est fondamental et c'est important. Et c'est pas seulement une question théorique. On se pose aussi ces questions-là parce qu'elles ont des implications pratiques dans nos vies. Si on se trompe sur notre connaissance de Dieu, on risque de se tromper aussi dans notre pratique, dans notre vie. C'est pour ça que c'est important, aussi pour des raisons pratiques, de s'intéresser à savoir qui est Dieu vraiment. Et j'aimerais ça simplement vous encourager à ne pas avoir peur de la théologie. C'est vrai que le mot théologie, c'est un mot qui peut faire peur. On dit « Ouh là là, théologie, c'est pas pour moi. Ça, c'est un truc pour les intellos, là. C'est un truc, c'est de la théorie. » Parfois, il y en a même qui se disputent, qui se crêpent le chignon pour des questions théologiques. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, non. Il faut qu'on dédramatise un peu tout ça. La théologie, c'est simplement s'intéresser à connaître Dieu comme il est. Même dans l'expérience la plus pratique qu'on peut faire de Dieu, c'est aussi déjà de la théologie. Et quelle que soit la conception qu'on ait de Dieu, qu'elle soit simple ou élaborée, c'est déjà de la théologie. Et la raison pour laquelle on se pose ces questions-là, c'est que si on a une mauvaise théologie, on va avoir une mauvaise pratique. Alors, rassurez-vous, ce matin, le but, c'est pas de faire une étude exhaustive, très pointue, sur qui est Dieu. Je n'ai pas du tout cette prétention-là, ni les compétences pour le faire. Si je dois avoir un seul but ce matin, c'est qu'en sortant d'ici, on se dise « Ah oui, j'ai vraiment envie de connaître Dieu. Oui, j'ai envie de mieux le connaître. Pas d'en savoir plus sur Dieu, mais de mieux connaître Dieu. C'est pas tout à fait pareil. Ça implique qu'on soit conscient de l'importance du sujet. Ça implique aussi qu'on soit prêt à revoir notre position, qu'on soit prêt à remettre en cause nos conceptions sur Dieu qui sont peut-être fausses, en tout cas imparfaites, ça c'est sûr. Ça nous donne envie de chercher Dieu et d'en tirer les conséquences pratiques dans nos vies. Alors, une petite question. Quelle est l'image que vous vous faites de Dieu? Alors, j'ai deux représentations. Peut-être, je ne sais pas si l'une d'entre elles correspond à l'image que vous vous faites de Dieu. Est-ce que c'est celle d'un juge implacable qui punit sans se tromper, mais pas à l'ombre d'une ride de sourire vers le haut, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un bon Dieu sur son nuage, complètement déconnecté de la réalité, parfois peut-être limite niais ou faible, en tout cas pas crédible? Quelle que soit l'image qu'on ait de Dieu, elle est fausse. Et ce qui est important de réaliser, c'est que si on a une mauvaise image de Dieu, si on a une image fausse de Dieu, et par exemple si on a une image d'un Dieu qui est faible, qui est niais, qui est impuissant, qui est déconnecté de la réalité, eh bien, on risque de tirer une conclusion qui est mauvaise, qui est dangereuse. Typiquement, moi, si on me présente un Dieu comme une de ces deux images-là, moi, je vais dire, un Dieu comme ça, j'en veux pas. Un Dieu comme ça, je peux même pas y croire. Si Dieu était comme ça, et si moi, j'avais cette conception de Dieu, je serais athée. Et je pense qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont athées simplement parce qu'on leur a présenté une image d'un Dieu comme cela. Donc, c'est important, c'est critique d'avoir une bonne image de Dieu ou de pas en avoir une trop mauvaise, en tout cas. Alors, c'est tellement difficile de représenter Dieu que Dieu a interdit à son peuple de faire des représentations. Donc, on va lire un verset du début des 10 commandements qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Parce que le danger, dès qu'on va vouloir représenter Dieu, c'est qu'on va mal le représenter. On va donner soit une image simplement imparfaite et incomplète, et pire, une image fausse et mauvaise de Dieu. Donc, il vaut mieux pas se représenter. Donc, j'étais un peu hérétique juste avant. Alors, quand on se pose la question de qui est Dieu, l'autre question qu'on est obligé de se poser, c'est qui c'est qui est au centre. C'est un peu comme la Terre et le Soleil. Est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Dans notre expérience quotidienne, nous, ce qu'on voit, c'est que le Soleil, il tourne autour de nous. Mais quand on regarde un peu plus loin, et ça, les découvertes scientifiques ont permis de s'en rendre compte, finalement, dans l'absolu, c'est quand même plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Ben souvent, c'est un peu comme ça avec Dieu. On peut faire le parallèle entre la Terre et les humains, et le Soleil et Dieu. Nous, dans notre référentiel à nous, on a l'impression que c'est Dieu qui tourne autour de nous. Mais en vrai, c'est Dieu qui est au centre. Il nous a créés, mais lui était au centre, était avant nous. Et je sais pas si on s'en rend bien compte souvent, mais bien souvent on reste dans cette logique Dieu qui tourne autour de nous. Et souvent, on entend que c'est les hommes qui ont inventé Dieu parce qu'ils en avaient besoin et qu'ils devaient avoir quelque chose pour répondre à leurs besoins. Beaucoup de gens ont cette conception de Dieu. Mais la Bible nous présente le contraire. C'est pas que Dieu avait besoin de l'homme non plus, mais Dieu était là indépendamment de l'homme et il nous a créés. Et en fait, cette tentation-là, elle peut même toucher les chrétiens. Alors j'aime bien cette image du génie dans la lampe, comme dans Aladdin. C'est quoi le génie dans la lampe? C'est le génie à qui on peut demander tout ce qu'on veut, et il va nous le donner. Et je sais pas si parfois vous avez cette impression-là, quand on entend nos prières, parfois on a l'impression qu'on est là devant une lampe, quoi. Et on attend que le génie sorte et on veut lui demander tout ce qu'on veut. Dans quelle mesure notre relation avec Dieu, elle est à l'image de celle qu'on peut avoir devant le génie de la lampe? Et parfois, il y a certains, quand on regarde nos préoccupations par rapport à Dieu, quand on cherche la volonté de Dieu, est-ce que parfois on n'est pas plus en chercher comment il peut nous aider, comment il peut nous servir? Comment il peut m'aider à réussir ma vie? Comment il peut m'aider à sortir de mes problèmes? Comment il peut m'aider à gagner de la confiance en moi? Alors certes, Dieu nous aide dans ces choses-là et c'est super. Mais attention à ce que notre préoccupation première ne soit pas juste comment Dieu peut m'aider. Prenons du recul et voyons que Dieu est au centre et nous, on a été créés autour. Alors j'aime bien cette citation de Rick Warren qui dit « Vous avez été fait par Dieu et pour Dieu, et tant que vous ne le comprendrez pas, votre vie n'aura aucun sens. » C'est une question de quel est le sens de notre vie. Ayons la bonne image de Dieu, Dieu au centre. Alors dans notre quête de Dieu, j'aimerais qu'on garde en tête deux idées qui sont un peu paradoxales finalement. Dieu nous dépasse, d'une part, mais en même temps, c'est quand même un Dieu qui se révèle aux hommes. Alors on va l'illustrer par deux versets. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix, dit Dieu, sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. En gros, il est vraiment tellement plus grand que nous. Et Dieu se révèle aux hommes, tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Ah, il est quand même proche. Dieu veut être en relation avec nous. Alors, vous connaissez peut-être cette histoire des 6 aveugles et de l'éléphant. Moi, ça, en quelques mois, je l'ai entendu plein de fois alors que je ne l'avais jamais entendu avant. En fait, c'est une très vieille histoire qui vient du jaïnisme, donc cette religion indienne. Alors, on dit que ces 6 aveugles veulent savoir ce que c'est un éléphant. Alors, ils s'approchent, ils tâtonnent. Il y en a un qui touche son côté, qui dit « Oh, mais ça ressemble à un mur, c'est dur, c'est étendu. » Il y en a un autre qui touche sa jambe et dit « Oh, mais ça ressemble à un tronc d'arbre. » Un autre qui touche sa queue qui dit « Ah ben non, ça ressemble plutôt à une corde, un éléphant. » Celui qui touche sa trompe, il va dire « Oh non, c'est comme un serpent. » Celui qui touche ses défenses, il va dire « Oh non, c'est plutôt comme un sabre ou une épée. » Et celui qui touche son oreille, il dit « Ah non, c'est comme un éventail. » Alors cette image est souvent utilisée pour dire que ces aveugles correspondent aux différentes religions et qu'elles ont une approche partielle de Dieu et c'est pour ça qu'elles ont une approche différente. Et j'aimerais compléter cette histoire et dire que l'histoire va plus loin. C'est que l'éléphant, il parle. Dieu se révèle à travers sa parole dans la Bible. Et même pour les aveugles, il y a même des Bibles en braille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu ne nous laisse pas nous dépêtrer juste avec ce qu'on peut découvrir de lui en tâtonnant. En fait, on n'arriverait pas vraiment à le connaître. Si on était aveugle, même en tâtonnant, on n'arriverait pas à découvrir l'éléphant. Mais Dieu se révèle à nous. Et c'est uniquement parce que Dieu se révèle à nous, qu'on puisse le connaître, qu'on peut le connaître. Alors, pour conclure mon introduction, rassurez-vous, la suite sera moins longue que l'introduction, j'aimerais juste nous encourager à chercher Dieu en sachant que c'est possible de le connaître. Alors, déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, qui voyait ce qui allait venir dans la Nouvelle Alliance, disait « Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. » L'Éternel le déclare, « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Donc il voit déjà que ça va être possible de connaître Dieu. Et plus récemment, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean dit « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. » Donc c'est possible de connaître Dieu. Alors pour la suite, je vais dérouler mon exposé en trois parties. Tout d'abord, on va s'intéresser à quelle est la nature de Dieu, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire être Dieu. Ensuite, on va voir que Dieu est un Dieu personnel. Et ensuite, on va s'intéresser à quelques attributs de Dieu qu'il veut nous partager aussi, veut nous communiquer. Alors, la nature de Dieu. Pour être vraiment très simple et très fondamental, qu'est-ce que Dieu ? La première chose qu'on peut savoir de lui, c'est qu'il est le Créateur. Et en fait, quand on commence à lire la Bible, c'est la première chose qu'on trouve. Genèse 1, verset 1, premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental et important. Et il n'y a que quelques années où j'ai réalisé à quel point réaliser le fait que Dieu était créateur en disait long sur sa nature, sur comment il est. Alors, j'ai fait un petit tableau comparatif entre ce que c'est qu'être créateur ou une créature. Et on voit qu'il y a plein de choses qui découlent sur la nature de Dieu, du fait qu'il soit créateur. Alors on va regarder le tableau point par point. Le premier point, c'est que contrairement à une créature dont l'existence dépend totalement de son créateur, Dieu ne dépend de personne. Dieu existe avant toute chose, en dehors de toute chose. Et quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit « Je suis celui qui suis ». Par définition, Dieu existe indépendamment de toute autre chose. Ensuite, Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il n'est pas matériel. Nous, on ne connaît qu'une existence matérielle. Quand on n'existe plus dans notre corps, voilà. Mais Dieu, il est esprit. Et donc Dieu, on a pu lire ça dans l'évangile de Jean récemment, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'esprit et en vérité. Alors, une des conséquences du fait qu'il soit esprit, c'est qu'il est aussi éternel, en dehors du temps. Nous, nous sommes limités dans le temps. Nous avons un début, nous avons une fin. Et entre les deux, tout se déroule dans un sens. Et nous, on ne connaît que ça. Mais Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est éternel. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. L'autre contrainte, c'est l'espace. Nous, on est limité dans l'espace, on peut être qu'à un seul endroit à un moment donné. Alors que Dieu, vu qu'il est esprit, il peut être partout, à la fois. Autre chose, nous on est limité dans nos capacités, mais Dieu, lui, il est tout puissant. Il peut tout faire. On est limité dans nos connaissances, Dieu, lui, sait tout, il connaît tout. Ça change complètement la perspective qu'on peut avoir de la vie entre une perspective d'une créature ou la perspective d'un créateur avec toutes ces caractéristiques-là. Et si on se rend bien compte que Dieu sait tout, ça ne sert à rien de se cacher. David, le psalmiste, disait « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. » etc. Ça ne sert à rien de chercher à se cacher devant Dieu quand on réalise qu'il sait tout. Alors, à retenir ce qui découle du fait que Dieu soit créateur. Il est unique. En tout cas, on ne connaît qu'une seule création, donc il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire au passage qu'on peut le comparer à rien d'autre. Alors souvent, c'est difficile quand on veut définir quelque chose et qu'il n'y a qu'un seul exemplaire, parce qu'on ne peut pas le comparer. Ensuite, Dieu est indépendant de la création. Ceux qui aiment les mots techniques, on appelle ça la transcendance. Si vous n'avez pas les mots techniques, oubliez tout de suite. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de la création pour exister, pour être lui-même. Et à l'inverse, Dieu est aussi présent dans la création. Il y en a qui ont une image juste d'un Dieu lointain, qui a un grand horloger qui a créé la terre, mais maintenant on ne le voit plus, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qui il est. Non, Dieu s'implique, s'investit, continue d'agir dans la création. Alors, passons à notre deuxième partie. Dieu est un Dieu personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je regardais dans le petit Robert, il dit une personne, c'est un individu qui a une conscience claire de lui-même et qui agit en conséquence. Alors, si Dieu est une personne, ça veut dire qu'il n'est pas juste une force ou une énergie. Et beaucoup de gens, en fait, ont une conception qu'il doit bien y avoir quelque chose au-dessus de nous, on ne sait pas trop quoi, une force créatrice. Mais le Dieu que la Bible nous révèle est un Dieu personnel, c'est quelqu'un. Il a même un nom, voire même plusieurs. Je vous ai affiché la représentation en hébreu, Yahvé, je suis. C'est un Dieu qui a une personnalité. C'est-à-dire qu'il a une volonté, il a un plan, il y a une certaine intelligence dans ce qui se passe dans l'univers. Il éprouve même des sentiments, de la joie, de l'amour, de la colère, de la tristesse. Et ultimement, le fait que Dieu soit personnel fait aussi qu'on peut avoir une relation avec lui. C'est pas pareil qu'avec une énergie. Avec une énergie, on peut bidouiller avec, faire de la magie, mais pas avoir une relation avec une énergie. Dieu est personnel, on peut avoir une relation avec lui. Alors, vous aurez peut-être noté que j'ai dit que Dieu était personnel et que j'ai pas dit que Dieu était une personne. Parce qu'en fait, Dieu est trois personnes. Pas trois dieux, un seul Dieu, trois personnes. Voilà, tout de suite, ça commence déjà à me dire, c'est un peu compliqué. En tout cas, la Bible nous dit clairement que il existe Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont distincts les uns des autres, mais qui sont tous les trois Dieu. Et en fait, quand on regarde les premiers critères qu'on avait vus tout à l'heure, les caractéristiques du Dieu créateur, on voit qu'ils se retrouvent dans tout ça. Éternel, Esprit, omniprésent, etc. Mais c'est une seule divinité. Et en fait, notre problème à arriver à concilier le fait qu'il y ait un Dieu et trois personnes, c'est que souvent on a trop une vision de Dieu comme une personne. On se représente un peu comme un humain d'ailleurs. Et donc, un humain, c'est une personne. Que Dieu, c'est pas un humain, c'est pas juste une personne. Donc, un Dieu, trois personnes. Je détaille pas plus, on aura l'occasion de revenir dessus dans une autre prédication au mois de mai. Et une chose qui est intéressante, que j'ai réalisée récemment, du fait que Dieu soit trinitaire, donc qu'il y ait trois personnes, c'est qu'au sein même de la Trinité, il peut y avoir des relations entre ces personnes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que Dieu est relationnel, ou par exemple que Dieu est amour, ça veut dire que ça, c'est possible, ou c'était possible, indépendamment de la création. Ça veut dire que si ça fait partie de la personne de Dieu qui soit amour, et on va le revoir un peu après, c'est parce qu'en lui-même, il était déjà en mesure d'éprouver de l'amour entre les différentes personnes de la Trinité. Sinon, ça voudrait dire que Dieu dépendrait de sa création pour être amour. C'est pas le cas, il est amour indépendamment de la création. Je ne sais pas si vous me suivez, déjà c'est fort. Alors, si vous vous dites que la Trinité, ça vous dépasse, bah dites-vous que c'est plutôt normal, et c'est même plutôt rassurant. Parce que si on dit que Dieu est grand et que Dieu nous dépasse, s'il était facile à comprendre ou à modéliser, ce serait un peu louche. Et moi, de me dire que Dieu, il est un peu complexe à comprendre, pour moi, c'est un indice que ce n'est pas possible que ce soit un homme qui ait inventé Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, mais que c'est plutôt le contraire. Et moi, ça donne de la crédibilité au message de la Bible par rapport à Dieu. Alors, un Dieu relationnel, non seulement en lui-même, mais dans tout le message de la Bible, on voit que Dieu veut une relation avec les hommes. Dès la Genèse, quand il crée Adam et Ève, il veut une relation avec eux. Et la conséquence de la chute, de la désobéissance, du péché, c'est la rupture de cette relation. Et c'est ça le plus grave. C'est ça la mort, la rupture de cette relation. Et pendant tout le reste de l'histoire de la Bible, on voit comment Dieu tend la main vers l'homme et comment il veut rétablir cette relation. L'homme parfois la rejette, mais parfois il se rend compte qu'il est perdu et il appelle à l'aide et il saisit la main de Dieu et après il la rejette de nouveau. Ça, tout ça, c'est le cycle qu'on peut voir dans l'histoire de la vie des hommes dans la Bible. mais cette constante. Dieu veut une relation avec nous. Alors, maintenant, notre dernière partie, on va voir quelques-uns des attributs de Dieu qu'il veut nous communiquer. C'est des choses qui sont parfaites en lui, mais qu'il veut aussi susciter en nous. Alors, rassurez-vous, on ne va pas lister une liste complète, exhaustive des différents attributs de Dieu. Je vais simplement en mentionner trois grands ou principaux. Premièrement, le fait qu'il soit saint. Alors, la sainteté de Dieu, c'est une question de pureté absolue, de perfection, aucune compromission. Et c'est quelque chose qui n'est pas juste théorique, c'est quelque chose qui est tellement impressionnant que, par exemple, les Juifs dans l'Ancien Testament avaient peur d'approcher Dieu. Ils avaient conscience que s'ils approchaient Dieu, qui était tellement saint, c'était comme un feu dévorant qui nous brûle, qui nous consume. C'est pas rien, la sainteté de Dieu. Et la Bible nous montre que Dieu ne veut pas rester seul saint, il veut aussi qu'on le devienne. Je prie deux citations dans l'Ancien Testament. « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Et dans le Nouveau Testament, « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. » Deuxième attribut, j'ai regroupé être droit et juste. Il est comme un rocher. Ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. Ce qui est intéressant dans la deuxième citation, qui est plus une invitation aux hommes de partager ces qualités-là, « Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaider la cause de la veuve. » Là, on se rend compte que ces exigences de droiture, de justice vis-à-vis de l'homme, c'est des choses très concrètes. Donc chercher à connaître Dieu, chercher à savoir ce qu'il veut pour nous, c'est très concret, ça a des implications très concrètes. Je ferme la parenthèse. Dernier attribut qu'on va voir ensemble, le fait que Dieu est amour. On a l'habitude de le lire dans le christianisme, mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Les musulmans n'ont pas cette conception-là, par exemple, que Dieu est amour. Et du coup, logiquement, découle une des principales exigences de l'homme envers de Dieu, pardon, envers les hommes. Quel est le plus grand commandement ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est le plus grand commandement pour les humains parce que c'est pour qu'on ressemble plus à Dieu. Ça fait partie du projet de Dieu. Alors, pour résumer ce qu'on a vu avant de conclure, on a vu que par nature, Dieu se distingue de ses créatures, de la création. Il est unique, il est indépendant de toute chose, mais quand même présent dans la création. Deuxième chose, Dieu est personnel, et du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir une relation avec lui. Et troisième chose, c'est que par cette relation, il veut nous communiquer certains de ses attributs. Alors, sans surprise, ma conclusion est tout simplement, cherchons Dieu. Même s'il nous dépasse, et forcément Dieu nous dépasse, il est plus grand que nous, mais rappelons-nous que c'est lui qui nous a cherchés en premier. Et donc c'est donc grâce à lui qu'on peut avoir une relation avec lui. Je vous invite à... On va réfléchir à tout ça, on va incliner nos têtes, et on va demander à Dieu de faire macérer tout ça dans nos cœurs. Seigneur Dieu, merci parce que tu es à l'initiative de tout. Tu es à l'initiative de la création et donc à l'initiative de notre vie. Et merci parce que tu continues à être là et tu continues à vouloir notre bien. Et merci parce que tu nous as tendu la main. Et Seigneur, je te prie pour que cette main, chacun d'entre nous, sans exception, nous puissions la saisir et ne plus la rejeter, Seigneur. Je te prie pour que tu nous donnes soif aujourd'hui de te connaître, soif de mieux réaliser qui tu es et soif de te laisser agir dans nos vies. Seigneur, je te prie pour que la connaissance que nous pouvons avoir de toi ait des implications concrètes et pratiques dans notre manière de vivre. Je te prie pour que notre manière de vivre te rende gloire parce qu'elle montre que tu es à l'œuvre en nous. Merci parce que par ton Saint-Esprit, tu viens habiter en nous et ça, c'est le plus efficace que tu aurais pu inventer. Et je te prie pour que ton Esprit puisse vraiment continuer à agir en nous de plus en plus cette semaine. Amen.